Dans notre étude du livre de Josué, on pourrait dire que nous arrivons finalement au, je pense que les Français disent, jour J. C'est ça? La conquête de Canaan. Pendant les premiers cinq livres, chapitres de Dieu prépare Israël, Josué, Israël, pour ce jour. La grande question qui se pose maintenant est si Israël va mettre en pratique les leçons apprises ou pas. Tout ce qu'ils ont appris sera mis à l'épreuve maintenant. Alors le chapitre 6, j'ai pensé de lire tout le chapitre, mais quand je regarde le temps, je pense que c'est mieux de sauter. Mais à la maison, je vous encourage de lire Josué. Chapitre 6, d'accord? Et le chapitre 6 nous raconte l'histoire de la première bataille contre les Cananéens. Et c'est la prise de la ville de Jéricho. Vous avez, je suis sûr, lu et entendu parler de cette histoire. Notre objectif, comme je dis toujours dans cette série de messages, est d'apprendre de l'exemple de Josué et le peuple d'Israël. Il y a des principes que nous pouvons tirer de leur exemple qui vont nous aider à prendre possession de la vie promise en Jésus-Christ. Et ce chapitre, chapitre 6 de Josué, porte beaucoup de principes, beaucoup de leçons, même plus que je peux mettre dans une prédication. C'était un peu frustrant en préparant le message. Je voudrais parler de cela et ceci et plein de choses. Mais il y a un principe capital que nous allons, que je veux souligner ce matin. Et ce principe, ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir bien le marché à la fois. D'accord?
Par la foi.
Oh, par la foi, oui. Qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? Oui, j'ai mis dans mes notes par. D'accord? Marché par la foi. La meilleure interprétation. De notre texte de ce matin est donné en Hébreux, chapitre 11, versets 30 et 31. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous encourage d'être là avec moi dans vos textes pour lire. Il y a aussi des Bibles sur la table si quelqu'un a besoin. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une Bible? D'accord, Florian. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Voilà. OK, très bien. Hébreux chapitre 11, verset 30. Le chapitre 11 est rempli des exemples remarquables de la foi. Les théologiens appellent Hébreux 11, et j'espère que je peux prononcer ce mot, le palmarès des héros et des héroïnes de la foi. Toute l'histoire de Josué chapitre 6 est résumée dans une seule phrase. Hébreux chapitre 11, verset 30. Qui peut le lire pour moi? Verset 30.
C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours.
Okay.
C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance.
Ok, merci. Donc, tout le chapitre 6 est résumé. Donc, ces deux phrases, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, en fait. Et le principe contient marcher alors par la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Comment cette foi s'exprime à travers la vie de Josué et du peuple d'Israël? Et ce matin, je veux considérer deux expressions. De leur foi qui m'a marqué dans cette étude de Josué chapitre 6. Leur foi s'exprime de deux manières. La première, c'est par l'obéissance. Et le deuxième, cette foi qui s'exprime par l'obéissance à Dieu. Et le deuxième, c'est la dépendance de Dieu. Si notre foi aujourd'hui est marquée par ces deux expressions, nous serons capables de prendre en possession la vie abondante qui nous attend en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie que tu prennes ce passage, que tu nous parles, que tu nous aides à comprendre vraiment ce que tu as pour nous, pour chacun. Aide-moi de m'exprimer en français, aide les autres à comprendre. Et Seigneur, je prie que tu nous parles. Je prie en ton nom. Amen. La preuve de la foi est l'obéissance. La preuve de la foi est l'obéissance. Nous avons vu dans ma dernière prédication qu'à la veille de la conquête, Josué a fait une mission de reconnaissance. Probablement pour voir son ennemi de près et pour déterminer un plan de bataille. Et lors de cette mission, Josué a eu une rencontre extraordinaire avec Dieu, où Dieu s'est révélé sous la forme du chef de l'armée de l'Éternel. Et par cette rencontre, Josué a compris qu'il était le vrai chef, que Dieu était le vrai chef d'Israël. Il a compris que ce n'était pas lui qui était le chef, mais c'était Dieu. C'était Dieu qui donnerait le plan de bataille. C'était Dieu qui donnerait la force nécessaire pour réussir. La responsabilité, en fait, de Josué était de se soumettre à Dieu, à l'écouter et lui à obéir, à lui obéir. Alors maintenant, cette leçon que Josué a reçue sera mise à l'épreuve par son obéissance. On verra si Dieu était vraiment le capitaine de son âme ou non. Regardons maintenant avec moi dans la Bible, chapitre 6, les premiers 5 versets. C'est là où Dieu donne à Josué les instructions pour prendre la ville de Jéricho. D'abord, notez le verset, remarquez le verset 1. C'est là que nous voyons la situation qui fait face à Israël. La ville est fermée, le texte dit, et fortifiée. Elle est prête pour un long siège. Normalement, vaincre la ville de Jéricho serait une tâche difficile qui prendrait du temps. Où est le truc? Non, désolé.
Non, mais le contrôle...
D'accord. Mais normalement, on peut mettre l'écran vide. D'accord. Ok. Ok. J'étais là. Voilà. Ok. Au verset 2. Donc, nous voyons la situation au verset 1. Le film est fermé, fortifié. Ils se prêtent pour un long siège. Et ça serait une tâche difficile. Verset 2. Avant de donner le plan de bataille, Dieu rappelle à Josué la promesse qu'il leur donnera la ville. Et maintes fois, maintes reprises, dans les premiers 5 chapitres, Dieu a dit, c'est moi qui te donne, qui vous donne cette ville et cette terre promise. Puis, maintenant, au verset 3 et 5, à 5, le moment attendu par Josué. Dieu lui donne les instructions maintenant pour prendre le plan de bataille, pour prendre la ville de Jéricho. Écoutez maintenant, regardez avec moi ce que Dieu dit à partir de verset 3, je le lis. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissant devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Et quand ils sonneront de la corne retentissant, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Et alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. C'est ça le plan. C'est ça le plan de bataille que Dieu donne à Josué. Imaginez, alors, imaginez la réaction de Josué. Mettez-vous dans sa peau. Dieu, attends, alors, c'est ça? Peut-être je n'ai pas bien entendu. Tu veux que nous faisons quoi? Marcher autour de la ville chaque jour? Crier le septième jour? C'est tout? C'est ça ton plan de bataille? Imaginez ce qui était dans le cœur de Josué. Mais ce n'est pas un plan de bataille militaire. Donc si Josué réagissait de cette façon, il aurait raison. Car ce n'est pas, comme je disais, un plan de bataille militaire. Josué doit décider maintenant, en ce moment. Il reçoit ce plan. Dieu lui donne ce plan de marcher tout simplement en silence, sonner les trompettes. Il doit décider si Dieu était vraiment le capitaine de son âme ou non. C'est en fait, ce plan de bataille nous montre la vérité de ce que Hébreux chapitre 11, verset 30 nous dit. Il dit que c'est par la foi que les murailles vont tomber, en fait. Et donc, il doit avoir cette foi que ce plan que Dieu lui a donné est juste et vrai et bon. Et ce qui est magnifique, quand je regarde dans le texte, est que nous ne voyons aucune hésitation de la part de Josué. Tout de suite, il transfère ses instructions au peuple. Et alors, encore, mettez-vous dans le peau de Josué. Il est là devant tous ses chefs militaires. Il dit qu'en fait, ils attendent aussi le plan que Dieu a pour eux. Il dit que, bon, écoute, ce que nous allons faire pour prendre cette ville et on va marcher autour. Bon, mais il regarde une fois. Il a dit chaque jour. Et le septième jour, nous allons marcher sept fois. Nous allons crier et les murs vont tomber. J'imagine que ça serait difficile aussi pour le peuple d'Israël. En fait, et même cette instruction de ne pas parler, ça c'est difficile. Imaginez d'avoir toute l'armée et personne ne peut parler. En silence, pas un mot, le texte dit, dans le chapitre 6. Je ne sais pas si je... Non, je résiste. Non. Heureusement, il n'y avait pas des femmes dans l'armée. Quand j'ai préféré, j'ai dit non, je ne peux pas le dire. Mais je ne pouvais pas résister. Non, désolé. Nous avons le problème aussi, nous les hommes. Mais ce que nous voyons, Josué, il a accepté le plan de Dieu par la foi. Et le peuple d'Israël, ils ont accepté le plan de Dieu aussi par la foi. Et ils ont littéralement fait le principe, marcher par la foi, parce que cette fois, et cette fois, le septième jour, ils ont marché autour de la ville et les murs sont tombés. Alors, nous voyons encore dans notre texte, si vous avez vos Bibles, versets 20 et 21, nous voyons le résultat de leur obéissance. Comme je disais, le septième jour, après le septième tour de ville, quand les soldats crient, les murs tombent. Et Israël prend possession de la ville comme Dieu a promis. Alors, quelle est la leçon à tirer? Notre foi est prouvée par notre obéissance. Si nous marchons par la foi, nous allons prendre possession de la vie promise en Jésus-Christ. Et cette vérité est renforcée aussi d'une manière, notre manière dans l'histoire de Jéricho. Quand je disais que les murs de Jéricho sont tombés, ce n'est pas complètement vrai. Tous les murs sont tombés sauf une petite section où la maison de Rahab s'est trouvée. Rahab et sa famille étaient les seuls parmi tous les habitants de Jéricho qui ont tourné vers Dieu, qui ont décidé de mettre leur confiance en Dieu. Donc, ils étaient les seuls. Quand Josué a envoyé des deux espions, c'était Rahab qui les a reçus et les a protégés. Et les espions lui ont demandé de donner une promesse. Si elle ne les trahissait pas et si elle attachait une corde rouge à sa fenêtre pour signaler où elle habite, elle et toute sa famille seraient sauvées. Sa maison a été construite dans le mur de Jéricho. Alors, quand les murs sont tombés et on pouvait voir à travers toute la poussière, à travers tous les gravats par terre, une partie du mur encore debout, ils ont vu que là, il y a l'endroit où Rahab habitait. Rahab avait confiance en Dieu. Elle faisait exactement ce qu'il disait. Sa foi est montrée par sa obéissance. Et comme elle a obéi par la foi, elle a pris possession de la promesse de Dieu. Israël, Josué, ils ont pris possession de la promesse de vaincre la ville de Jéricho. Rahab a pris possession de la promesse, être sauvé, tout et toute sa famille. C'est un principe fondamental de la vie spirituelle. L'obéissance montre que nous avons la foi. Et c'est difficile d'obéir à Dieu si nous n'avons pas la foi. Pas la foi que Dieu, de tout ce que Dieu nous demande est toujours pour notre bien. Si nous avons cette foi, on peut obéir mieux. Parfois, nous ne voyons pas la logique de ce que Dieu nous demande. Pensez à la multiplication de pain dans le Nouveau Testament. Il y a une grande foule de plus de 5000 personnes. Et Jésus dit à ses disciples, « Bon, je veux que tous les faits, que vous les faites manger. » Et donc, j'imagine que les disciples, ils ont regardé Josué pour, mais comment nous allons le faire? Nous avons seulement 5 pains et 2 poissons et distribuez-les. Évidemment, ils ont regardé, mais Jésus, comment ça peut faire? Mais ils ont commencé, ils ont obéi. Ce n'était pas logique dans leur tête. Mais ils ont obéi, ils ont commencé à les distribuer. Et miraculeusement, le pain a multiplié, les poissons ont multiplié. Parfois, nous ne voyons pas la logique de ce que Dieu nous demande. Mais si nous obéissons, on va voir sa gloire. C'était la même chose pour Marthe devant le tombeau. Elle a dit quoi? Son frère était mort depuis 4 jours, il était dans le tombeau. Et Jésus a dit, enlève la pierre. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Non Seigneur, non, ce n'est pas possible, il est mort depuis 4 jours. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est par l'obéissance. Et Lazare était ressuscité de la mort par Jésus. Parfois, nous n'aimons pas ce que Dieu nous demande. Pierre, dans une conversation avec Jésus un jour, il dit, Seigneur, combien de fois est-ce que nous devons pardonner notre frère? Et Pierre a dit, 7 fois? Et je vous dis, 7 fois, c'est déjà beaucoup. Quand quelqu'un fait la même chose 7 fois, c'est trop. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, non, pas 7 fois, 70 fois, fois 7 fois, n'est-ce pas? Parfois, nous n'aimons pas faire ce que Dieu nous demande, mais nous devons le faire. On peut dire la même chose pour Jacques, on est dit, considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Nous voulons murmurer contre Dieu et dire non, prends comme un sujet de joie. Parfois, ce que Dieu demande va contre-courant de la culture qui nous entoure. Je vous donne l'exemple, l'avortement, mariage pour tous, abstinence sexuelle avant le mariage, toutes ces choses. Que le monde dit non, mais Dieu dit oui. Nous n'avons pas la liberté en Christ de choisir ce que nous convenons. Si Jésus est vraiment le capitaine de notre âme, nous devons suivre ses instructions. Alors, trouve-toi dans une situation de double logique, on peut dire, ce matin, où Dieu te dit une chose, mais ton cœur et ta tête te dit une autre chose. Ça peut être plein de choses. Tricherie au travail. Ah bon, mais il ne me paye pas beaucoup, donc il me faut... Bon, ça c'est logique. Peut-être que je prends un peu de temps, plus de temps dans mon temps de repos, pas seulement une heure, mais deux heures. Il y a plein de façons pour tricher. Pour les étudiants, Dieu m'appelle d'être un médecin, donc... Bon, mais il y a quelqu'un qui est un peu plus intelligent que moi qui est là et je vois son papier et c'est comme c'est la volonté de Dieu que je deviens un médecin. Peut-être que j'aurai besoin et il a pouvoir pour moi une moyenne. Non, mais ça, c'est la tricherie. Il y a plein de choses. Nous devons regarder et nous devons... L'obéissance est une question de foi. Et si nous marchons par la foi, les murs vont tomber. Mais il y a une deuxième chose que nous voyons ici. La deuxième expression de la foi que je vois dans cette histoire, c'est l'importance de la dépendance de Dieu. Je ne sais pas si c'est de Dieu ou à Dieu. À Dieu? OK. La conquête de la ville de Jéricho et la terre promise ne serait pas possible sans l'aide de Dieu. Il faut dépendre à Dieu. Ce qui saute aux yeux dans ce texte, chapitre 6, est la place centrale de Dieu dans toutes les démarches. Au verset 8 et 9, remarquez les personnes qui marchent et aussi l'ordre de la procession. Je vais lire versets 8 et 9. Lorsque Josué eut parlez au peuple, les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissant devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent la trompette. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres et qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Donc nous voyons l'ordre. D'abord, c'est avant-garde, les soldats. Après l'avant-garde, il y avait les prêtres avec les trompettes. Et après les prêtres avec les trompettes, maintenant, c'est l'arche de l'Alliance. Et après l'arche de l'Alliance, nous voyons encore arrière-garde, les soldats. Et la place centrale est donnée à l'arche de l'Alliance, qui est normalement gardé dans le lieu très saint, dans le tabernacle. Mais elle présente la présence de Dieu, la présence de Dieu vivant au milieu d'Israël. Les prêtres ne sont pas les soldats, mais plutôt les serviteurs de Dieu. Les trompettes sont la présence divine. Comme notre frère a dit tout à l'heure, qu'on a vu en nombre, les trompettes étaient pour sonner. Il est là, il est présent. Il est avec nous. Donc, tout cela, c'est pour montrer l'importance de Dieu, la place centrale de Dieu. Nous devons dépendre à lui si nous allons prendre la victoire. Nous avons déjà vu ce principe au chapitre 3. Vous savez, quand ils ont traversé le Jourdain. Et ils ont traversé, et c'était quoi le premier? C'était les prêtres avec l'arche pour traverser le Jourdain. Et pourquoi? Parce qu'ils devaient fixer leur regard pas sur le Jourdain qui déborde, à cette époque, qui débordait les rives, mais ils devaient regarder à Dieu pour toute aide. Et c'est la même chose, nous voyons le même symbolisme, la même chose ici au chapitre 3. Alors, chapitre 6, c'est un rappel que c'est par la puissance de Dieu que les murs vont tomber. Le peuple doit dépendre de Dieu. Remarquez aussi dans ce texte, quand vous êtes à la maison, vous pouvez lire le symbolisme du numéro 7 dans le passage. Il y a sept prêtres, sept trompettes, sept jours. Ils devaient faire sept tours de la ville le septième jour. Le numéro 7 symbolise la perfection, la puissance et la présence divine. Cela nous fait rappel des 7 jours de création, en fait. Par la bonté et la puissance de Dieu, une nouvelle vie sera créée pour Israël dans la terre promise. C'est une nouvelle création pour eux. L'accent sur le numéro 7 est une forme forte image pour leur montrer que l'Éternel est présent et la victoire lui appartient. Et c'est lui qui leur donne, en fait, la terre promise. Alors, quelques questions pour vous. Qu'est-ce que tu fais pour garder Dieu au centre de ta vie? Ils ont gardé l'arche au centre de tout ce qu'ils ont fait, face au mur de Jéricho. Qu'est-ce que tu fais pour garder Dieu au centre de ta vie? Qu'est-ce qui symbolise pour toi sa présence quotidienne? Qu'est-ce qui te rappelle qu'il est là? Et sur quoi ou sur qui dépends-tu face aux obstacles que tu affrontes dans ta vie? Il y a encore un autre aspect dans cette histoire qui nous montre l'importance de dépendre de Dieu. Et c'est dans le fait que Dieu a demandé à Josué, le peuple d'Israël, de marcher autour de la ville pendant 7 jours. Au-delà du symbolisme du nombre 7, les 7 jours ont donné à Israël le temps de réaliser leurs besoins d'aide de Dieu. Encore, nous avons vu ce même principe. Ils étaient déjà préparés pour cela. Parce que nous avons vu au chapitre 3, Dieu a dit que vous allez traverser le Jourdain, mais qu'est-ce qu'il dit? Attendre d'abord 3 jours. Pendant 3 jours, ils devaient regarder l'impossibilité de la situation. Et nous voyons la même chose ici. Dieu voulait leur apprendre comment vivre par la foi et dépendre complètement de lui afin d'être capable de vaincre les ennemis de Canaan. Chaque jour, ils font un tour de Jéricho. Chaque jour, ils voient l'impossibilité de leur situation. Chaque jour, ils réalisent que sans l'aide de Dieu, ils ne peuvent pas l'apprendre. Parfois, Dieu nous fait attendre devant une situation pour nous apprendre à dépendre de lui. Et c'est comme je disais dans une illustration il y a 2 semaines, la vie est comme une voiture. Et je dois donner les clés de ma vie à Dieu. Et c'est lui qui prend la place de conducteur et c'est moi qui prends la place de passager. Et parfois, c'est difficile parce que je veux qu'il va plus vite que je peux, qu'il va. Mais nous devons avoir confiance en lui. Et je dois décider que c'est lui, que je mets ma confiance en lui, que c'est lui qui prend contrôle de toutes ces choses. Peut-être aujourd'hui, tu es dans une situation de ta vie où tu as l'impression que tu tournes et tournes et tournes. Les misères israélites, mais les murs ne tombent pas. Fixe ton regard sur lui, garde ta foi, dépend de lui, à lui. Il est présent. Et le 7e jour arrive où tu vas crier un cri de victoire et les murs vont tomber. Alors, ce matin, le principe que nous apprenons de l'exemple de Josué est de marcher par la foi. Il y a 2 expressions de cette foi qui doivent marquer aussi nos vies. D'abord, l'obéissance à Dieu. Cette foi est exprimée par notre obéissance à Dieu. Dieu leur donne, Israël, le plan de bataille. D'un point de vue humain, ce n'est pas logique. Pourtant, par la foi, ils obéissent et ils voient l'invisible. Ils voient que les murs tombent. Et la deuxième chose, c'est la dépendance. La conquête de la ville de Jéricho et la terre de promise n'est pas possible sans l'aide de Dieu. C'est la même chose pour nous. Israël doit donner la place centrale à Dieu et fixer le regard sur lui pour réussir. Et si nous marchons par la foi, comme nous avons vu dans l'exemple de Josué, le peuple d'Israël, nous allons jouir de la vie abondante qui nous attend en Jésus-Christ. Amen. Là, c'est ces choses, ces principes de Josué chapitre 6 nous parlent. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que tu prennes quelque chose de ce message, de cet enseignement de Josué chapitre 6 et que tu nous parles. Je prie en ton nom. Amen.